La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Que faites-vous de vos morts ? Sophie Kahl retournait en 2017 la question aux visiteurs de son exposition au musée de la chasse et de la nature à Paris. L'artiste ayant produit de nombreuses pièces en écho à la mort de sa mère, Rachel Monique, puis de son père, Bob, ses parents dont elle était et reste si proche. Que fait-on de ses parents morts, surtout lorsqu'on ne les a pour ainsi dire pas connus, morts trop jeunes ? C'est la question que nous poserons aujourd'hui à la suite dans les idées avec Sarah Chiche qui publie Saturne, un roman hanté par le fantôme d'un père et qui nous rejoindra en seconde partie, avec Christine Détré qui a visité l'exposition de Sophie Kahl en 2017 et n'avait pas osé répondre à la question sur le registre tendu aux visiteurs. Elle était alors au beau milieu d'une longue enquête, une enquête singulière, non seulement parce qu'elle porte sur sa mère, disparue lorsqu'elle avait 2 ans, mais aussi parce qu'il s'agit d'une très originale et audacieuse enquête de sciences sociales, un grand livre de sociologie. Pour la première suite dans les idées de la saison, la semaine dernière, nous parlions avec Hervé Mazurel d'un cas, le cas Caspar Hauser. Un cas, ce sont souvent des choses qui permettent aux chercheurs de penser et de penser autrement. Il s'agissait d'une enquête historique audacieuse, on s'en souvient. Et c'est une enquête audacieuse, une pensée par cas aujourd'hui, 2 cas dont nous allons parler avec vous, Christine Détré. Vous êtes sociologue, vous êtes professeure de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et vous publiez avec Karine Bastide « Nos mères, Huguette, Christiane et tant d'autres, une histoire de l'émancipation féminine », un livre qui paraît dans la collection « L'envers des faits » aux éditions « La Découverte ». Alors, je le disais, c'est une enquête de sciences sociales, mais là où les choses se compliquent un peu, c'est qu'à l'origine de cette enquête de sciences sociales, c'est une autre de vos qualités qu'on trouve, au fond, puisque vous êtes sociologue, mais vous êtes aussi romancière, et que c'est à la faveur d'une rencontre organisée à l'occasion de la parution d'un roman que vous aviez écrit sur votre mère, que vous avez rencontré celle qui co-signe aujourd'hui le livre avec vous.
Alors, c'était un livre de sociologie en fait. C'était la présentation d'un livre de sociologie sur le genre, mais en revanche, effectivement, dans cette librairie lyonnaise qui s'appelle Ouvrir l'œil, Karine, que je ne connaissais pas, est arrivée. Elle a failli ne pas venir parce qu'il y avait des embouteillages. Et puis, voilà, à la faveur de la fin de la séance, tout le monde s'est mis à discuter. Voilà, c'était à l'époque où on pouvait discuter de façon informelle dans les librairies, sans faire attention aux distanciations, etc. Et elle me dit, effectivement, j'avais écrit un livre, un roman qui s'appelait Rien sur ma mère, aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Et elle me dit cette phrase qui, pour moi, a été un hameçon, et je pense que souvent dans les livres, dans les enquêtes, il y a un hameçon qui harponne, et elle me dit, vous, à l'époque, quand vous voyez, vous n'avez rien sur votre mère, et moi, j'ai trop sur ma mère. Et trop, c'était effectivement donc sa mère Huguette Bastide qui avait publié un livre aux éditions Mercure de France, une correspondance avec Simone de Beauvoir, une radioscopie enregistrée avec Jacques Chancel, des articles, des courriers des lecteurs, et puis elle me dit, et puis des malles entières de manuscrits non publiés, etc., etc. Et là, moi, je savais vraiment pas qu'en faire, mais je me suis dit, il y a rien d'un côté, il y a trop de l'autre, il y a quelque chose à faire.
Alors ce quelque chose à faire, c'est un dispositif, au fond, l'idée, l'hypothèse que ce trop allait permettre de mieux saisir le rien, en quelque sorte.
Oui, alors ça a évolué parce qu'au début, effectivement, moi je partais de l'idée que donc le peu que je savais de ma mère Christiane était qu'elle avait été institutrice. Je savais pas la date de naissance, mais bon, vu mon âge, je me doutais que c'était dans les années 40. Et la mère de Karine était également institutrice. Donc au début, je me suis dit effectivement, moi pensant que je n'aurais jamais rien, de combler le vide par ce qu'elle m'aurait apporté. Et en fait, le projet a évolué et tout au long en fait de ces 4 années, presque 5 années de travail, il a évolué sans cesse. On a présenté dans un colloque notre recherche qui était tout au début. Et effectivement, toutes les pièces qu'on présentait étaient des pièces qui venaient des archives de Karine. Et là, l'organisateur du colloque, Jacques Walter, qui est aussi un professeur de sociologie, m'a dit au repas, mais tu sais, en fait, l'administration garde des traces de tout individu. Et effectivement, j'avais lu ces livres magistraux qui ont pu être écrits sur les Juifs assassinés par les nazis. Et effectivement, on voit que sur chaque individu, on peut trouver, si on se donne la peine de le faire, en fait. Et moi, je n'y avais jamais pensé.
Donc c'est là que l'enquête prend une autre... Le mot enquête prend une autre acception. C'est-à-dire que c'était une enquête au sens classique des sciences sociales et ça devient une enquête comme parfois on mène des écrivains ou on mène des historiens qui travaillent dans les archives, ce qui n'est pas votre habitude de travail.
Non, et puis même une enquête presque de détective, en fait, parce qu'il y a eu... Donc effectivement, tout au long du travail, il y a eu aussi beaucoup de résonance avec le travail de Laurent Demanze, qui à l'époque aussi était professeur de littérature à l'UNES de Lyon, et on faisait un séminaire ensemble, et c'était le moment où il écrivait son livre Le Nouvel Âge de l'Enquête. Et donc on voyait bien, effectivement, les parallèles qui pouvaient y avoir, mais ça s'est vraiment transformé aussi en enquête de détective, parce que moi, j'étais vraiment aussi à la recherche d'éléments très biographiques, concrets sur ma mère. Avoir des photos, tout simplement, quelque chose que je n'avais absolument pas. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu aussi donc enquête biographique, enquête policière, enquête de détective, trouver des gens qui pourraient l'avoir connue. Et puis, une enquête de sciences sociales, parce que comparer les cas, la pensée par cas, c'est pas faire une biographie de quelqu'un, ce qui serait de toute façon impossible. Enfin, épuiser la vie de quelqu'un, ça serait impossible, mais c'est trouver les logiques d'action, de comprendre en fait les trajectoires des unes et des autres.
Alors vous allez nous raconter cette enquête et puis ce que vous avez trouvé en enquêtant, mais avant ça j'aimerais quand même qu'on donne la mesure du livre, parce qu'il ne s'agit pas simplement à partir d'un cas, de deux cas, de proposer des résultats d'enquête pour pouvoir établir un récit aussi précis que possible, aussi riche que possible de la vie de deux femmes. Il s'agit, et l'ambition est là, au fond d'écrire un livre de sociologie sur ce que c'est qu'être une femme dans les années 1960 en France.
Exactement. Et ça aussi, c'était ça s'est précisé au fur et à mesure de l'enquête, justement parce que en allant dans les archives, j'ai retrouvé les écoles qu'elle avait pu fréquenter, donc j'ai retrouvé les listes de classes et j'ai pu retrouver des anciennes élèves de sa promotion. Et c'est là où le projet s'est déplacé presque d'un projet qui aurait été plus littéraire à un projet de sciences sociales. Alors je vais dire sciences sociales au sens large parce que Karine est historienne et moi je suis sociologue, mais ça a été effectivement au fur et à mesure des entretiens qu'on faisait. Parfois, une ancienne camarade de ma mère me disait, mais moi, je l'ai très peu connue ou je m'en souviens pas. Voilà, j'étais dans sa classe, mais je m'en souviens pas. Et en fait, c'était pas grave parce que tout ce qu'elle pouvait raconter, tous les entretiens qui pouvaient être produits, donc soit par ses camarades de classe qui ne l'avaient pas connue, mais moi, on me demanderait de me souvenir de quelqu'un que j'ai connu au collège, j'aurais aussi beaucoup de mal à donner des faits très précis. Ou bien après, ses collègues de coopération, c'est là que le projet s'est déplacé de raconter effectivement quelle pouvait être la vie de ces femmes à un moment très particulier, parce que c'est avant mai 68 et c'est le moment où la domination rapprochée telle que l'explique Dominique Mémy, donc ce pouvoir sur les corps qu'il pouvait y avoir, donc les corps des enfants par les parents, des femmes par les hommes, commence à se fissurer et à se craqueler. Et ça, on le voit très très bien dans tous les entretiens qu'on a fait et puis toute cette masse documentaire qu'on a amassée.
Vous dites on peut avoir du mal à se souvenir de ceux qui étaient à l'école avec nous et en même temps la mémoire parfois est incroyable en interviewant une personne en Tunisie, vous avez littéralement entendu la voix de votre mère.
Oui, alors ça c'est aussi les miracles en fait. Je ne vois pas d'autres mots que ces mots-là. Enfin, les miracles des enquêtes de ce genre-là, les hasards. Et donc ça, effectivement, je peux raconter l'anecdote parce qu'elle c'est une pépite en fait pour moi. Enfin, vraiment. Il se trouve que pour le collège en Tunisie, donc ma mère a été coopérante et donc travaillait dans un collège en Tunisie qui avait à l'époque un mot arabe et tous les collèges ont été renommés. Donc impossible de retrouver le collège. par Facebook, on arrive à retrouver quelqu'un qui trouve le bon collège. Et puis cette personne-là me dit, donc Neila, cette personne qui s'appelle Neila Trabessi, me dit, je pense que j'ai une cousine de ma mère qui a fait le collège, qui a été élève dans ce collège. Et elle m'envoie par SMS, en fait, une photo de classe de l'époque. Et elle s'en était pas rendue compte, mais moi, en regardant la photo de classe, je vois qu'elle a la photo de ma mère. Donc, je suis allée en Tunisie, j'ai rencontré donc Aïcha, cette ancienne élève de ma mère, et qui a oublié le français, en fait, parce qu'elle a été scolarisée très peu de temps, et qui se souvient extrêmement bien de ma mère, parce que c'était justement les 2-3 années de collège où c'était la possibilité d'une autre vie. Et elle me raconte une anecdote, donc en arabe, en tunisien, parce que voilà, elle ne sait plus parler français, et donc Neila me la traduit. Et elle me raconte que ma mère était extrêmement douce, gentille, etc. Et qu'à un moment, en fait, elle parlait en tunisien avec sa copine. Donc, il fallait parler français, hein, c'était la coopération française. Et ma mère s'approche d'elle et elle était en train de dire à sa copine en arabe, « Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, Madame Détré !» Et là, ma mère s'approche d'elle et elle lui met la main sur l'épaule et lui dit, « Parlez-moi en français, Mademoiselle Souïd, parlez-moi en français !» Et elle répète cette phrase-là, donc, dans une autre langue, mais l'intonation, c'était l'intonation de la voix de ma mère. Et c'est vrai que quand on fait une enquête, il y a des choses qu'on n'attrape pas, c'est la voix et l'odeur, en fait. L'odeur, voilà, de la même façon, je l'attraperai jamais. Mais la voix, je l'ai eue par cette Aïcha qui a été en classe avec ma mère.
Reprenons ces deux cas, donc ces deux femmes qui structurent cette enquête. Toutes les deux ont en commun de devenir institutrices dans ces années 1960. Ça, c'est une part forte, parce que c'est les femmes dans les années 60, mais pas n'importe quelle femme.
Oui, tout à fait. Et non seulement elles deviennent institutrices, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elles deviennent institutrices pas du tout par les mêmes voies. Et le fait que ça ne soit pas les mêmes voies donne des rapports à la profession qui sont extrêmement différents. Donc en fait, Christiane, ma mère, venait d'un milieu très populaire, et elle arrive à la profession d'institutrice par l'école normale des filles. Donc il y avait école normale des garçons, école normale des filles, mais qui était en fait une façon de sortir en fait des enfants de milieux populaires pour en faire les éducateurs, finalement les enseignants et enseignantes de ces enfants de milieux populaires eux-mêmes. Parce que le système scolaire étant absolument pas organisé tel qu'il est aujourd'hui, il y avait vraiment deux voies séparées, la voie des lycées pour les enfants de milieux plus favorisés, et puis la voie des cours complémentaires pour les enfants de milieu populaire. Donc ça, c'est une vraie chance en fait offerte par la République à ma mère et puis à ses copines de promotion qui viennent quasi toutes des mêmes milieux, parce que ces personnes-là sont internes et elles sont payées, elles sont vraiment prises en charge. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on est face à presque une institution totale à la Goffman, alors pas tout à fait, mais parce qu'on voit...
Le contrôle est fort.
C'est ça, en fait j'ai pu avoir accès aux bulletins et aux dossiers scolaires de toutes ces jeunes filles-là pendant les quatre années de leur scolarité, et on voit la socialisation à marche forcée des corps. Alors par exemple leur dire que faut pas se coiffer comme elle se coiffe, faut pas parler, par exemple sur une appréciation d'un bulletin de ma mère, c'est qu'elle est beaucoup trop vulgaire pour le métier qu'elle veut exercer. Donc là on a cette voix-là, mais donc qui est paradoxalement recrute dans les milieux populaires, mais qui est la voie royale en fait pour devenir institutrice. Et Huguette, la mère de Karine, en fait elle fait le lycée et devient institutrice parce qu'il faut un métier, parce qu'elle est enceinte. En fait. Donc on a finalement deux personnes qui vont avoir le même métier.
Mais qui accèdent
de façon très différente, et ça va être des réalisations dans le métier aussi extrêmement différentes. En fait.
Alors ce que ce contrôle permet de voir aussi, parce que vous avez rencontré d'autres institutrices qui sont passées par cette école normale et eu accès à ces documents, c'est au fond, ce qu'était cette société française du milieu des années 60, à un moment aussi où la culture change assez vite. On se rappelle que mai 68, ça commence par des histoires de dortoirs différents, des filles et des garçons. Et là, il y a les deux écoles normales, il y a des problèmes pour celles des filles, dont votre mère faisait partie, qui décident d'aller dans des lieux qui ne sont pas fréquentables selon les autorités.
Le café chez Rémy.
Voilà, le café chez Rémy, où on écoute la musique qui passe à Salut les copains. C'est aussi ce contexte historique là que vous resituez dans l'enquête.
Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment flagrant parce que voilà, écoutez les témoignages, les souvenirs de ces anciennes normaliennes, on voit comment à la fois la discipline, alors exercée par les directrices, deux directrices se sont succédées du temps de la scolarité de ma mère, mais les directrices et puis la surveillante générale, Madame Briseville, et donc elles se souviennent en fait, elles avaient comme possibilité de sortie, c'était 1h30 le jeudi. Et ce qui est intéressant, c'est que les garçons, eux, avaient plus de temps. Donc voilà, il y avait déjà aussi des différences genrées. Et toutes les ruses, donc à la fois cette discipline très très forte, et toutes les ruses pour les transgresser, en fait. Et c'est ça aussi qui a vraiment fait écho avec mes préoccupations de sociologue. C'est toujours ce jeu entre les contraintes et puis l'agency, en fait. Comment, à partir de contraintes, on peut faire son chemin et puis trouver un petit jeu dans les taux des disciplines aussi serrées. Et là, c'est vrai que pour l'école normale, c'était vraiment une situation à haut risque, puisque l'école normale des filles, elle était coincée entre l'école normale des garçons et la caserne. Et à la réunion de rentrée, elles se souviennent que la directrice leur avait dit, parmi vous, il y a un tiers de normaliennes, un tiers de filles anormaliens et un tiers de filles à soldats. Donc voilà, les choses étaient claires.
Alors, pour décrire plus largement le contexte, au-delà des deux cas qui vous intéressent dans cette enquête, vous arrêtez un moment sur un manuel pratique, l'univers de la femme, qui donne un aperçu de la condition féminine, en fait, à l'époque, Christine Détré.
Oui, c'est ça. Alors, c'est l'univers de la femme moderne, si je me souviens bien. Donc, c'est un pavé qui doit faire 4-5 kilos. C'est quelque chose qui est vraiment une encyclopédie. Et en fait, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est que ce livre-là montre toutes les contradictions, les paradoxes. Voilà, cette période entre deux moments, en fait. Donc, où effectivement, il y a quelque chose qui semble complètement acquis, c'est que les femmes vont travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne remet pas en cause. En revanche, il faut travailler, mais il faut rester belle. Il faut travailler, mais il faut continuer à bien s'habiller, etc. Une défense de l'émancipation, de la libération de la femme, mais pas du tout par le partage des tâches domestiques. Enfin, ça va être par, il y a maintenant des équipements ménagers, achetez-les, faites un emprunt, achetez-les, et puis ça simplifiera votre vie. Ou bien l'organisation. Donc voilà, toute une sorte d'ergonomie de l'organisation d'une journée de la femme pour être la plus efficace possible, et donc pour travailler, mais continuer à être une femme, à être une mère, etc.
Donc c'est quand même l'époque où ce genre de livre est possible, peut-être même un best-seller, l'époque où néanmoins, de plus en plus de femmes, y compris celles issues de milieux qui n'entretiennent pas des relations très étroites avec la culture, de plus en plus de femmes prennent conscience que quelque chose ne va pas dans ce statut, dans cette place qu'on leur réserve dans la société, et s'emparent de la question, deviennent évidemment pour certaines militantes, pour d'autres pas forcément, mais se posent ces questions. Là, il y a encore une asymétrie dans les deux cas, mais vous avez un matériau formidable également dans le livre, qui est la correspondance que la mère de Karine Bastide entretient avec Simone de Beauvoir, qui est évidemment la grande référence de la pensée féministe à l'époque.
Oui, et ça, c'est exactement, pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant, c'est vraiment montrer comment on va avoir ce même désir d'émancipation, cette sensation que les coutures sont trop serrées et que ça craque de partout, mais selon les capitaux qu'on peut avoir, alors capitaux culturels, capitaux sociaux, etc., les voies de l'émancipation sont différentes. Et donc, effectivement, Huguette Bastide, alors paradoxalement, a suivi la voie la moins légitime pour être institutrice, se retrouve dans une école taudie en Lozère, mais elle a cette ressource intellectuelle de la lecture et d'oser écrire à un grand écrivain, enfin en l'occurrence une grande écrivaine, Simone de Beauvoir.
À une époque où les grandes écrivaines comme Simone de Beauvoir revoir, prenez la peine, parce que c'était plus compliqué que d'envoyer un mail aujourd'hui, de répondre à des lectrices ou des lecteurs.
Oui, tout à fait. Alors, il y en a encore qui continuent. Annie Ernaux, elle répond à chaque personne qui lui écrit. Mais effectivement, Simone de Beauvoir donc répondait à toutes ses correspondantes et correspondants. Et puis aussi, publier ses œuvres dans les magazines féminins, ce qui lui a été reproché d'ailleurs, ce qui avait été aussi une façon de pour une certaine presse, de délégitimer ses écrits. Et donc, Huguette va écrire à Simone de Beauvoir, alors pour se plaindre à l'origine du fait que l'école dans laquelle elle travaille n'a pas d'eau Et donc voilà, les écoles taudis, là aussi c'est quelque chose qui est quand même peu documenté en histoire, mais c'était des conditions de travail où les instituteurs et institutrices devaient aller chercher l'eau, devaient creuser un trou pour qu'il y ait des toilettes. Enfin voilà, c'était de cet ordre-là. Et donc Huguette écrit à Simone de Beauvoir pour témoigner de ça. Et de fil en aiguille, en fait, Simone de Beauvoir va vraiment l'encourager, comme elle a encouragé aussi d'autres correspondantes, l'encourager, donc toujours bien évidemment à lire, mais aussi à écrire. Et donc ça va d'abord être des articles dans les temps modernes, et puis après ça va être le livre Institutrice de village que Huguette fait paraître en 1969. Mais voilà, c'est ce qui nous a intéressé, c'est de montrer comment cette correspondance-là, donc on a, là aussi il y a eu un petit miracle d'enquête qui est que forcément Karine n'avait que les lettres envoyées par Huguette, et on a rencontré Marine Rouge qui fait sa thèse sur les correspondances ordinaires de Simone de Beauvoir, qui dans son travail dans les différentes bibliothèques a pu retrouver en fait les lettres envoyées par la maman.
Donc vous avez l'ensemble de la correspondance.
Donc on a l'ensemble de la correspondance qu'on consacre tout un chapitre à cette correspondance, et pour moi c'est un vrai exercice, enfin un vrai témoignage de sociologie de la lecture aussi, de voilà, qu'est-ce qu'apporte la lecture à quelqu'un en fait. Et on voit comment la lecture va pour Huguette, ça lui permet de tenir, ça lui permet de se rendre compte qu'elle n'est pas seule, ça lui permet de se projeter, il y a vraiment des ressources identitaires qui sont extrêmement fortes dans le fait de lire Simone de Beauvoir et d'écrire à Simone de Beauvoir.
Voilà, c'est l'un des matériaux du livre. Il y en a énormément, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, la coopération, enfin énormément de choses dans cette enquête. Vous réservez une place à la fin, un chapitre aux hommes, en l'occurrence plus spécialement aux deux maris de ces deux femmes. Ça s'est imposé.
Oui. Alors ça s'est imposé pour deux raisons. Bon, la première, c'est que tout ce livre-là, il est traversé par une problématique en termes de genre. Enfin voilà, la place des femmes, l'émancipation des femmes, etc. Et voilà, en tant que sociologue du genre, on sait bien maintenant qu'on peut pas parler des femmes si on parle pas des hommes. Enfin voilà, toutes ces histoires de contraintes d'émancipation, bah bien évidemment, c'est des systèmes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et on est obligé de... Et donc, ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'était aussi, pour moi, c'est vraiment très, très important de montrer que la sociologie, elle peut permettre de comprendre les actions, même apparemment impensables, que peuvent avoir les individus. Alors, je vais le dire très, très, très personnellement, effectivement, mon père, la mort de ma mère était un secret de famille, et mon père ne nous en a jamais parlé. Jamais une photo, jamais parlé, etc. Vu de l'extérieur, ça peut paraître quelque chose de très dur, de... alors que mon père était extrêmement aimant, extrêmement bienveillant, etc. Et donc, moi, la sociologie, tout ce chapitre-là, ça m'a permis aussi de comprendre les raisons d'un tel comportement. Bah oui, qu'est-ce que c'est qu'être un homme à cette époque-là, et d'avoir une femme qui s'émancipe, une femme qui gagne de l'argent, une femme qui dit qu'elle veut divorcer. Donc c'était extrêmement important de faire ce chapitre-là pour montrer qu'avec les ressources que les sciences sociales nous donnent, ou la littérature, bien évidemment, on peut comprendre et expliquer les actions des individus. Et après, leur pardonner, c'est un autre chemin, mais il y a vraiment ces choses-là.
Comprendre sans refuser d'y mettre de l'émotion. Vous arrêtez quelque temps aussi sur la place de l'émotion comme chercheuse dans ce travail, mais sans jamais pour autant vous départir d'une position éthique qui consiste à ne pas juger.
Oui, c'est pour ça que je disais...
C'est peut-être l'une des grandes forces aussi de ce livre.
Oui, et c'est pour ça que je disais après, quand j'ai dit pardonner, c'est un autre, c'est de l'ordre de la morale, c'est de l'ordre de la décision personnelle. Donc moi, bien évidemment que voilà, le pardon, il est entier et sans conteste pour ce qui a pu être vécu. Mais oui, je pense que c'est ça aussi la sociologie, c'est justement exposer les raisons des actions et ne pas avoir de jugement moral, de jugement sur ce qui se passe en fait, sur ce qui se fait.
Non, c'est important de le dire dans une époque où beaucoup de romans, pas forcément toujours les plus intéressants, parfois oui, marchent plutôt avec des moteurs de vengeance ou de... là, on est aux antipodes de ça.
Ah oui, tout à fait, oui. Enfin, pour moi, alors après, je pense que ça va rebondir aussi avec le livre de Sarah Chiche dont on va parler après, mais c'est un chemin de... un chemin d'acceptation, d'intégration. Voilà, il y avait un silence, il fallait combler le silence. Maintenant, il y a la photo de ma mère dans le livre, et puis dans ma vie, dans celle de mes enfants, et le silence est comblé et la place vide est remplie.
Vous citiez le livre de Sarah Chiche, c'est qu'il est temps qu'on y vienne, et on y vient tout de suite après simplement avoir entendu un extrait d'un vieil album de 1974, mais qui n'était jamais sorti, de Neil Young, Separate Ways.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
On opère quelques déplacements, quelques années, du début des années 70 vers 1977, de la Tunisie vers l'Algérie, des sciences sociales vers la littérature, mais au fond, beaucoup d'échos entre ces deux livres dont nous parlons aujourd'hui, Nos mères de Christine Détré et Karine Bastide, dont nous venons de parler dans la première partie, et puis votre roman, Sarah Chiche, Saturne. Un roman, je ne sais pas si vous accepteriez de dire que c'est un roman enquête aussi, même si ce n'est pas le même genre d'enquête.
Ah oui, tout à fait. Pour ça, il y a de la littérature dans les sciences sociales, dans le livre de Christine Détré et de Karine Bastide, et il y a de l'enquête, de la recherche dans ce roman littéraire, absolument. Ça part d'ailleurs d'une rencontre. Comme le vôtre, ça part d'une rencontre avec une autre femme en Suisse le 4 mai 2019. Une rencontre tout à fait réelle, où tout à coup, une femme que je ne connaissais absolument pas vient à ma rencontre et me dit « Je vous reconnais et j'ai bien connu vos grands-parents, votre père et votre oncle. C'était à Alger, pendant la guerre d'Algérie. » Et là, le sol se dérobe sous mes pieds quand dans ces moments où la vie devient trop grande pour nous, et passer les jours, les semaines même de sidération qui ont suivi, est revenue la nécessité de faire de ce rien sur mon père, quelque chose, et d'être fidèle à une promesse d'enfance, au fond, de répondre à son ultime geste d'écriture à lui, parce que les derniers jours de sa vie, il ne pouvait plus parler, donc intubé, il écrivait sur une ardoise, de répondre à son ultime geste d'écriture par l'écriture.
Alors comment vous l'avez mené, cette enquête ?
Je me suis dit que de toute façon, toute tentative de recomposition du cadavre serait vaine et que moi, je ne crois pas beaucoup à la fiction réparatrice. Donc, j'écris sans consolation, mais sans ressentiment non plus. Donc, il n'y a pas de vengeance. Voilà, tout est pardonné. Hein, tout est regardé, mais tout est pardonné. Donc, je voulais faire un diptyque, un peu comme on arpenterait les deux faces d'une même planète, d'une planète saturienne, avec une première partie où c'est vraiment le roman de la démesure maniaque, de la trop grande richesse d'une famille qui, soudain, prise dans les tourmentes de la guerre d'Algérie, une guerre qui ne dit pas son nom, va être contrainte à l'exil. Un père, une mère, une dynastie de médecins, deux fils en tout point dissemblables qui vont s'aimer et se haïr. Et on va suivre leurs itinéraires à tous deux, et surtout en se focalisant sur celui de la personne qui a été mon père, hein, qui a toujours été un fantôme dont je ne savais absolument rien ou que peu de choses. Et donc, il m'importait de faire un travail de documentation important pour comprendre quel était l'état de la médecine en Algérie. Au 19e siècle, au moment de la conquête algérienne, donc j'ai lu tout un tas de choses sur la médecine dite de colonisation, comme on l'appelait à l'époque, l'édification d'hôpitaux et de cliniques en Algérie, comment vivaient les médecins à cette époque-là, donc comment a pu vivre cette famille-là. J'ai rencontré également des personnes, outre cette femme que je cite, hein, cette femme rencontrée en Suisse, des gens qui m'ont parlé, hein, par bribes de leurs souvenirs de cette époque-là en Algérie. Je disposais de quelques lettres également, hein, que l'on retrouve dans le livre, et puis de quelques photographies tout de même de mon père, photographies qu'au fond, avant l'écriture de ce livre, je ne pouvais pas regarder. C'est-à-dire que je les avais, elles étaient là, mais elles étaient dans le noir.
Vous l'avez lu, ce roman de Sarah Chiche, Christine Détré ?
Oui, comme j'avais lu le précédent aussi, Les Enténébrés, donc... oui, je l'ai lu et j'ai été passionnée. Et effectivement, même si ce sont des histoires très différentes, enfin, sur voilà, cette recherche par une fille qui a perdu son père ou sa mère très jeune, voilà, j'ai trouvé des points communs. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée aussi, alors qui pour du coup est peut-être pas de l'ordre des sciences sociales, mais c'est cette voilà cette affirmation de rester endeuillé, de ne pas vouloir perdre, voilà, rester inconsolable, mais d'en faire une force et d'en faire une joie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, voilà, c'est dit dans le livre, c'est écrit dans le livre. Juste, il y a une phrase, j'aimerais beaucoup la lire parce que je la trouve magnifique. Il est des pertes sèches qui, loin d'empêcher l'amour ou la joie, les rendent plus brûlants encore, mais dont on ne se remet jamais et dont on ne souhaite pas se remettre. Mais c'est se dire, voilà, on ne s'en remet pas, mais on écrit et on se construit quand même à partir de ça.
Oui. Écrire sur la perte, à partir de la perte. Et le titre Saturne m'est venu à un moment précis, le moment où il a été discuté et remis en question, l'idée que les parents endeuillés, voilà, on n'allait pas allonger leur nombre de jours de congés. Il fallait qu'ils reviennent au travail le plus vite possible au nom d'un idéal de performance. Ou bon, on peut bien être triste, chagriné, endeuillé, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il faudrait qu'on redevienne vite performant, le barde de sa légende personnelle, optimiste, conquérante. Et ben Saturne, c'est autre chose. Hein. C'est une autre planète beaucoup plus sombre dans lequel il est postulé que s'il y a des êtres qui traversent le deuil, oui, et qui s'en remettent, eh bien, il y en a qui ne s'en remettent pas, mais ce n'est pas une affliction pour autant. Et il y a des personnes qui vivent en permanence avec leur mort, dans leurs mondes engloutis, qui ne supportent surtout pas d'être séparés de la chose perdue, mais qui ne veulent pas non plus être consolés.
On retrouve Sophie Calle et Que faire de nos morts,
et Vinciane Després aussi. Parce qu'on peut inverser. Enfin, Sophie Calle dit que faites-vous de vos morts, et Vinciane Després elle inverse la question en disant et qu'est-ce que les morts vous font faire. Et c'est ça aussi qui est magnifique, c'est de se dire bah les morts, voilà, on ne sait pas si les fantômes ça existe, etc. Mais ils existent toujours par le fait qu'ils nous font agir, qu'ils nous font écrire, qu'ils nous font chercher, qu'ils nous font continuer, qu'ils nous font rire, aimer, etc., etc. Donc c'est voilà, c'est les deux faces de la question. Qu'est-ce qu'on fait d'eux et qu'est-ce que eux et elles continuent à faire de nous ?
Il y a, on l'entendait tout à l'heure, de certaine façon, cette pépite de la voix dont parlait Christine Détré dans son enquête, quand elle entend à travers la voix d'une personne retrouvée celle de sa mère qu'elle n'a jamais entendue. Il y a quelque chose dans votre roman qui relève davantage des images, j'ai trouvé, Sarah Chiche, et notamment des images cinématographiques, celles des films amateurs que vous mentionnez. Mais il y a quelque chose je sais pas, que vous avez réussi à mettre en mots, mais qui pour moi ressort de l'univers des images mentales. Peut-être ça a été l'un des outils de cette enquête.
Oui, absolument. C'est-à-dire que j'ai mis 43 ans à pouvoir... Mon père est mort il y a 43 ans, ces jours-ci. J'ai mis 43 ans à pouvoir écrire le prologue de Saturne, donc qui raconte l'agonie de cet homme entouré de sa famille. Je n'en savais pas grand-chose que des bribes, les modalités de l'agonie. Et donc, il fallait bien trouver un cadre, des bords, et je me suis notamment inspirée de plusieurs tableaux, notamment un tableau de la déposition du Christ de Jacopo Bassano, voilà, parce que dans lequel on retrouve voilà des personnages. C'est le recours à l'art quand il y a rien. Donc, à une surabondance du voir face au déficit d'image, ça c'est ça la mélancolie, hein, le deuil mélancolique, c'est qu'il n'y a pas d'image. Donc c'est pour cela que les images cinématographiques et les images picturales sont en surabondance dans la première partie du livre. Alors il y a ce tableau-là, il y a aussi le Saturne de Goya, Saturne dévorant un de ses fils. Il y a le cinéma, effectivement, avec une allusion très claire. Les amateurs de Martin Scorsese et de Casino retrouveront hein, une citation de ce film au moment de la rencontre entre Harry et Eve, donc mes parents. Voilà, et autour de la figure de la femme perdue, la fille perdue, la femme fatale, voilà, un peu comme dans ce film de Scorsese.
Alors on voit, Christine Détrice, que la littérature, la fiction, le roman permet de faire comme type d'enquête que n'autorisent pas vraiment les sciences sociales, même les enquêtes les plus audacieuses, même celles qui prennent des risques et ont raison de les prendre pour pouvoir nous dire des choses. Du coup, vous investissez aussi l'autre registre. Comment s'opère ce partage, du coup ? Y reste-t-il, après cette enquête de sciences sociales, des choses que vous avez envie de dire, d'écrire ? Mais que vous êtes, que vous allez peut-être écrire dans un autre registre.
Oui, bah tout à fait, parce que en fait, je suis en train de finir un autre livre, donc sans doute qui sera publié chez De Noël. Donc là, on est dans le versant littéraire. Alors avec quand même cette idée de pas vouloir inventer, de voilà, ça c'est. Alors peut-être parce qu'il reste trop de gens aussi impliqués, voilà, mes frères, des oncles, etc. Donc de pas vouloir inventer des choses pour combler des manques, mais peut-être de effectivement plus investir ma place à moi, en fait, dans cette enquête-là, et ce que moi j'ai pu ressentir, et le recours aux images, il y a quelque chose qui est aussi un point commun qui moi m'a vraiment voilà, étonnée quand j'ai lu Saturne, c'est effectivement ce petit morceau de Super 8 où donc Sarah, vous voyez votre père, et moi j'ai eu exactement la même expérience avec un petit morceau de Super 8 où je vois ma mère bouger, et ça m'a fait moi ce que ça m'évoque, c'est le travail d'Agnès Varda aussi dans Les plages d'Agnès, où elle permet à quelqu'un qui n'a jamais connu ses parents de les voir, en fait, parce qu'elle avait tourné un bout d'essai avec les parents. Et là, voilà, c'est aussi travailler plus dans la littérature, c'est peut-être aussi se permettre des emprunts et des références à Agnès Varda, à Jacques Demy, etc.
Sarah Chiche, l'impression, mais peut-être que je me trompe, que j'ai eue en lisant votre roman, c'est que le processus de maturation de ce livre avait été très long, mais très souterrain, et que l'écriture, à proprement dite, avait peut-être été relativement rapide. Ça en fait aussi une différence dans les modes d'enquête, c'est-à-dire que écrire un roman comme ça, c'est d'abord le laisser... se développer. Vous disiez tout à l'heure, vous avez attendu 43 ans, peut-être un peu moins, parce que, mais oui, sûrement très longtemps. Mais qu'en est-il de l'écriture, du voilà, c'est la manière dont je me suis expliqué moi-même une forme de d'évidence de ce livre.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu que ça cavale, hein, comme le cavalier de la ballade qui est citée de Carl Gustav Schwab traverse un lac gelé au galop, hein, sur son cheval, c'est-à-dire sans se retourner. Il a fallu que ça aille vite aussi, parce que la première partie, c'est l'histoire d'un homme qui va mourir très jeune. Et la seconde partie, c'est l'histoire d'une dépossession mélancolique, avec l'histoire d'une jeunesse qui a été hantée par le deuil, jusqu'au point d'effondrement mélancolique. Et cela aussi, il fallait aller à l'os, tout de suite, sans tricher. Sinon, c'est de la triche, c'est de l'esbrouf, et ça m'intéresse pas. Donc, il fallait aller tout droit. Voilà. Et c'était une question, c'est une question de vie ou de mort, hein. C'est la question d'Hamlet. Voilà, être ou ne pas être, c'est tout à fait absurde d'ouvrir les yeux chaque matin et la personne qui vous est essentielle, elle est encore morte. Mais c'est tout à fait tout aussi absurde que de se tuer pour cette raison-là. Donc une fois que j'ai admis que je ne le rencontrerai jamais, ce père, ni dans la vie, et peut-être même jamais dans la mort, eh bien il y a le geste d'écriture, le geste solitaire, le geste souterrain, le consentement à quelque chose qui creuse, hein, de plus en plus, de façon très noire, très radicale, mais fallait y aller.
Fallait y aller, cette place de l'émotion, elle est admise pour les écrivains, pour la littérature. Elle l'est moins quand on est chercheur. Vous la revendiquez, Christine Détré.
Oui, parce que je pense qu'on peut vraiment travailler sur des sujets très intimes et être néanmoins rigoureuse et savoir ce qu'on fait de cette émotion et à quel moment on l'accepte et on la met dans l'écriture et puis à quel moment on essaye de la contrôler. Moi, dans l'écriture, en fait, c'était pas tant notre émotion. Alors, je vais dire nous, hein, parce que bien évidemment, c'était aussi un produit incessant de va-et-vient dans l'écriture, dans les discussions avec Karine Bastide, qui était pas dans la même situation, parce qu'elle, elle avait beaucoup de choses sur sa mère. Mais il y avait d'autres émotions, d'apprendre des choses qu'elle ne savait pas, par exemple, hein, par le biais des lettres envoyées à Simone de Beauvoir. Il y a eu des choses qu'elle a apprises. Ce que je dis dans le livre, il suffit pas d'avoir plein de documents pour que ça soit des archives. Il faut arriver à les lire, il faut arriver à les interroger. Mais c'était pas tant notre émotion qui moi m'interrogeait ou m'inquiétait, c'était aussi l'émotion du lecteur et de la lectrice, parce que je me suis dit il faut faire attention à ce que ça soit pas trop facile. Enfin, voilà, si on pose c'est une petite fille qui a perdu sa maman, et ça me paraît extrêmement important, en fait, de dire d'avoir le lecteur et la lectrice intéressés pour des bonnes raisons, en fait.
Oui, voilà, on va pas faire pleurer dans les chaumières. Hein. Voilà, il faut être un peu de rigueur et un peu d'éthique.
Merci Sarah Chiche. Saturne, c'est le titre de votre roman. Et merci Christine Détré. Le livre que vous co-signez avec Karine Bastide, Nos Mères, paraît aux éditions La Découverte, le roman de Sarah Chiche, Au Seuil. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture. Une page où vous pouvez réécouter l'émission ou la télécharger en podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Philippe Mercher, à la réalisation Marie Placet. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.